Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous quotidien sur l'antenne de la Première et sur OVIO. Les énergies, renouvelables ou non, durables ou non, sont au cœur de nos préoccupations depuis des mois. Le gouvernement a d'ailleurs prévu un codéco à ce sujet. Maxence Cordier, ingénieur, ne pratique pas la langue de bois dans son livre « Énergie » dans la collection « Fake or Not » chez Tana Éditions. Nous allons en avoir le fin mot.
La Première, le fin mot, Eddie Kakelbergs.
L'hiver va arriver et il n'y a pas assez de gaz. Est-ce que le gouvernement va couper l'industrie allemande pour ne pas que les Allemands aient froid ou bien pour ne pas arrêter le chauffage dans les hôpitaux? Là, il va y avoir des choix drastiques à faire. Pour l'instant, on n'en est pas là, heureusement, parce que c'est l'été.
Nous sommes dans ce qu'on appelle une guerre hybride. Et donc l'énergie, je dis ça aussi parce que c'est important par rapport à ce que beaucoup disent parfois, c'est pas une conséquence de nos sanctions, c'est que la Russie utilise l'énergie, comme elle l'utilise d'ailleurs l'alimentation, comme une arme de guerre.
Vous préparez à ce qu'il coupe totalement les livraisons.
Je pense que nous devons aujourd'hui nous préparer à un scénario où il nous faut nous passer en totalité du gaz russe.
Parce
que je pense que c'est un scénario n'est pas théorique. C'est un scénario très dur et donc on doit s'y préparer. Et donc, ce que je veux ici très clairement dire, c'est la vérité à nos compatriotes. Cela existe, ça ne dépend pas de nous. Et je pense que ce risque, ce choix que la Russie peut faire, il est probable. Et donc,
quid
face
des
à
conséquences
ça,
voilà, pour les particuliers,
ça,
pour les entreprises.
Mobilisation générale.
Les entreprises, donc, les particuliers.
D'abord
dans les
États.
Années 70.
Non, d'abord les États. Nous tous. Alors, la France, grâce à son modèle énergétique, est peu dépendante du gaz russe. C'est moins de 20% de nos besoins et nous avons déjà commencé à diversifier. Mais qu'est-ce que nous faisons depuis le début de cette guerre? En européen, nous diversifions pour aller chercher du gaz ailleurs. Et donc, nous allons continuer en européen à aller sécuriser des volumes de gaz ailleurs qu'en Russie, auprès des autres fournisseurs. La Norvège nous fournit beaucoup, quant à nous, mais le Qatar, l'Algérie, beaucoup d'autres puissances, les États-Unis d'Amérique, et donc on va continuer.
On fait des stocks.
Deuxième chose, donc ça, on diversifie l'achat. Deuxième chose, les stocks. Nous sommes en train de reconstituer nos stocks pour avoir, à l'automne, quasi à 100% de nos stocks. Nous y serons. Nous, Français, nous y serons. Et on a beaucoup moins de stocks que d'autres, parce que d'autres économies, l'Allemagne entre autres, sont beaucoup plus dépendantes du gaz. Et il faut les aider. Ensuite, on doit rentrer collectivement dans une logique de sobriété. C'est-à-dire que nous devons nous préparer à cela.
La Première, le fin mot.
Bonsoir Maxence Cordier.
Bonsoir.
Les énergies, on en parle beaucoup. Là, pour le coup, c'est la guerre qui va conditionner notre rapport à l'énergie.
Oui, c'est possible. Là, actuellement, l'Europe fait face à une crise énergétique, mais qui en fait était déjà présente avant la guerre. L'Europe est encore très dépendante des combustibles fossiles, pétrole, gaz et charbon. Or, l'essentiel de ces combustibles fossiles est importé, principalement depuis la Russie. Et cette dépendance, aujourd'hui, nous éclate à la figure d'une certaine manière avec une situation qui se dégrade vis-à-vis de la Russie et la Russie qui utilise ces combustibles fossiles pour faire pression sur l'Europe.
La Russie, ça représente quand même un fameux paquet.
Oui, la Russie est le premier fournisseur de pétrole, gaz et charbon de l'Union européenne. Donc c'est facile, c'est le premier fournisseur de chaque combustible fossile. Et cette dépendance s'accroît avec le temps parce que les extractions européennes de gaz, pétrole et charbon déclinent. Pour le pétrole et pour le gaz, elles déclinent depuis une vingtaine d'années. Ce déclin s'accélère depuis quelques années, notamment dans le cas du gaz, avec le passage du pic d'extraction de la Norvège, qui est le deuxième fournisseur de gaz derrière la Russie. C'est-à-dire que chaque année, l'Europe est de plus en plus dépendante de la Russie, qui elle-même travaille à réduire sa dépendance à l'Europe. Et donc ça donne des leviers à la Russie pour faire pression sur l'Europe.
Alors vous dites l'Europe est très dépendante des énergies fossiles, c'est un fait, mais on signale aussi que 80% de l'énergie consommée dans le monde est d'origine fossile.
Tout à fait, et c'est aussi le cas à peu près en Europe. Les premiers combustibles utilisés à la fois dans le monde, en Europe, en Belgique, en France, dans tous les pays européens, le premier combustible, c'est le pétrole. Et après viennent le gaz et le charbon selon les pays européens. Mais donc les combustibles fossiles représentent aussi environ 4/5 de l'énergie utilisée en Europe.
Ce qui veut dire que par exemple, sans pétrole, on ne circule plus.
Tout à fait. Le pétrole sert à la fois dans la mobilité. 95% des transports à peu près sont alimentés par du pétrole. Donc le pétrole, c'est l'énergie reine des transports de biens et de personnes. C'est l'énergie qui a permis la mondialisation, qui permet aussi d'une certaine manière notre niveau de vie. C'est ce qui nous permet d'accéder à des produits bon marché fabriqués à l'autre bout du monde. Mais le pétrole, c'est aussi une matière première qui sert à faire tous les plastiques, toutes les molécules pour la pharmacie, pour la cosmétique, etc. Donc c'est vraiment une matière qui nous entoure dans notre vie du quotidien.
Est-ce que la flambée des prix que l'on vit va faire plus pour activer les alternatives que le réchauffement climatique et les manifestations version Greta Thunberg?
C'est une excellente question. En soi, il faudrait, parce que la crise actuelle, c'est une crise des combustibles fossiles, c'est une crise de disponibilité des combustibles fossiles, et pour plusieurs raisons, alors un peu différentes sur le gaz et sur le pétrole, il y a fort à craindre que de toute façon, on ne puisse pas retrouver une situation qui nous était aussi favorable en termes d'approvisionnement dans les années à venir. Donc, si on veut sortir de cette crise par le haut, il va falloir se sevrer des combustibles fossiles. Ce qu'on peut craindre, c'est que l'Europe essaie de limiter les efforts en cherchant à diversifier son approvisionnement combustible fossile. Typiquement, ça pourrait vouloir dire essayer de chercher à remplacer une partie du gaz russe par du GNL, donc du gaz liquéfié importé d'autres pays du monde. Mais ces possibilités sont très limitées. Il y a des doutes sur le fait qu'on puisse y arriver à grande échelle. De toute façon, ça coûterait très cher. Donc si on investit du temps et de l'argent là-dedans, on risque d'échouer et finalement, ça risque de nous coûter très cher. Donc là, si on veut sortir de cette crise par le haut, l'enjeu est vraiment d'accélérer notre sortie des combustibles fossiles. Et là, on rejoint nos politiques climatiques.
Le risque est souvent agité, hein, d'une rupture brutale. Hein. On dit, voilà, Vladimir Poutine va couper ou coupe les acheminements, hein, les gazoducs ou oléoducs, et hop, on n'a plus rien. Certains nous prédisent un hiver dans le noir et dans le froid.
C'est tout à fait possible. En fait, le gaz, c'est une énergie qui est assez pratique parce qu'elle permet de faire de forts appels de puissance. C'est-à-dire qu'on en utilise beaucoup l'hiver pour se chauffer, peu l'été, mais on en importe toute l'année, on le stocke l'été pour pouvoir l'utiliser l'hiver. La difficulté qu'on a actuellement, c'est d'être capable de constituer des stocks pour pouvoir passer l'hiver sereinement, d'autant plus si la Russie devait couper complètement ou de manière assez conséquente ses livraisons de gaz à l'Europe. Donc aujourd'hui, c'est surtout une incertitude vis-à-vis de l'hiver. Quel va être l'état des approvisionnements gaziers? Est-ce que la Russie va couper ou réduire fortement sa fourniture dans une semaine, dans trois semaines, dans deux mois, au milieu de l'hiver? On n'en sait rien. Quelle va être la température moyenne cet hiver? Est-ce que l'hiver va être rigoureux ou est-ce qu'il va être plutôt doux? On n'en sait rien. À l'entrée de l'hiver, quel sera l'état des stocks de gaz en Europe? On n'en sait rien. Donc il y a vraiment un risque en fait assez profond cet hiver de voir le prix du gaz s'envoler, voire avoir des coupures de gaz. Et dans tous les cas, le prix du gaz qui s'envole, c'est quelque chose d'assez dramatique parce que ça va entraîner ce qu'on appelle de la destruction de demande, c'est-à-dire des faillites industrielles, des industries qui ne peuvent plus payer leurs factures d'énergie. Donc les gens se retrouvent au chômage et cette production-là disparaît. Donc par exemple, la production d'engrais qui est fabriquée à partir de gaz naturel qui est réduite, ça veut dire le prix des céréales qui augmente, ça veut dire des crises alimentaires dans certains pays du monde, une dégradation du contexte sécuritaire, etc. Et un peu partout en Europe, c'est aussi une progression de la précarité énergétique parce que les factures d'énergie des consommateurs s'envolent parfois de plus d'un millier d'euros par an. Et donc tout ça entraîne effectivement une réduction de la demande de gaz, mais qui se fait dans la douleur. C'est pour ça qu'il est essentiel dès aujourd'hui de réduire de façon planifiée et volontaire notre demande par des mesures de sobriété, c'est-à-dire arbitrer entre les usages qui nous semblent indispensables et ceux sur lesquels on peut faire des concessions.
Arbitrer, créer une sobriété, en clair, avoir une forme d'économie de temps de guerre et des sacrifices à la clé, certains pourraient l'entendre, voire peut-être une majorité, mais sortir structurellement de ce schéma de dépendance au gaz ou au pétrole, ça va se faire ou ça peut se faire raisonnablement en combien de temps?
Tout dépend des efforts qu'on est prêt à faire et de la situation internationale aussi. Si la Russie nous coupe le gaz, ça nous donnera davantage de motivation que si elle continue à nous vendre du gaz. Mais effectivement, ça prendra du temps parce que pour pouvoir se sauver des combustibles fossiles, il va falloir jouer sur plusieurs leviers. Développer toutes les alternatives aux combustibles fossiles, donc toutes les énergies bas carbone. Préserver évidemment les énergies bas carbone dont on dispose. Donc dans le cas de la Belgique, c'est notamment le parc nucléaire qui doit être préservé autant que possible. Économiser l'énergie par des mesures d'efficacité, c'est-à-dire mieux utiliser l'énergie, isoler les bâtiments, etc. Faire des efforts de sobriété, donc moins climatiser, moins chauffer, privilégier les transports en commun, etc. Et flexibiliser notre demande d'énergie pour être capable de tirer le plus possible parti des énergies bas carbone quand elles sont disponibles, c'est-à-dire de l'énergie éolienne quand il y a du vent, de l'énergie solaire quand il y a du soleil, etc.
Je vous ai bien entendu. Par exemple, pour ce qui est de la Belgique, on ne peut pas, à l'heure actuelle, se passer de l'énergie nucléaire.
Alors, sur le papier, tout est possible. La question, ça va être celle du coût pour la population et pour l'industrie belge. C'est-à-dire que face à une crise du gaz profonde et probablement durable, se passer du nucléaire pour le remplacer essentiellement par du gaz, Pour le dire gentiment, ce serait un pari risqué. Pour le dire de façon un peu plus cash, c'est suicidaire. Donc, si les centrales nucléaires sont fermées, bah, elles le seront. Mais ça veut dire que les efforts, soit de sobriété, soit de pauvreté, qui seront demandés à l'ensemble de l'économie belge, seront d'autant plus profonds. Il faut avoir conscience du fait que l'énergie nucléaire, actuellement, c'est quand même 50% de la production électrique du Royaume.
La Commission européenne, l'Europe, vient d'ailleurs de reconnaître que le nucléaire fait partie des énergies vertes.
Oui, alors j'aime pas trop ce terme d'énergie verte parce qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut derrière, mais effectivement, donc là, ça fait plusieurs années que l'Union européenne travaille sur une classification des investissements entre guillemets durables et non durables. Alors il y a beaucoup de critères derrière en matière d'aide à l'atténuation du changement climatique, d'adaptation au changement climatique, de la protection de la biodiversité, des écosystèmes marins, etc., etc. Et donc là, sur les critères climatiques, qui sont les deux seuls qui ont été étudiés jusqu'à présent, l'Union européenne vient de reconnaître que le nucléaire, comme d'autres énergies, les énergies renouvelables, la capture et stockage de carbone en sortie de centrales fossiles, etc., c'était des énergies et technologies qui contribuent aux objectifs d'atténuation du changement climatique sans nuire significativement aux autres objectifs environnementaux de l'Union européenne.
Lorsqu'on parle sobriété, Maxence Cordier, concrètement, pour le citoyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne dispose de certaines énergies que pendant un laps de temps donné chaque jour? Est-ce qu'on revient à ces situations qui semblent un peu des situations ou d'exception de guerre ou un peu préhistoriques?
Alors, ce dont vous parlez, ce serait plutôt du rationnement ou de la flexibilité. Disons que la sobriété, ça va être faire des efforts pour moins consommer d'énergie. Et vu que l'énergie, on la consomme surtout du côté des consommateurs particuliers dans les transports et dans le chauffage, ça veut dire moins utiliser de pétrole dans les transports avec tous les moyens que ça peut impliquer. Donc, davantage se déplacer à pied, en vélo, en transport en commun, en covoiturage, etc. Acheter des véhicules qui soient plus petits, plus légers, moins consommateurs, électriques, etc. Pour ce qui concerne le chauffage, moins se chauffer et à un peu plus long terme, et pour ceux qui en ont la possibilité, isoler leurs bâtiments et passer de chauffage fossile à des chauffages non fossiles bas carbone, type pompe à chaleur.
Dans la mesure...
Et après, il y a aussi de la sobriété pour les entreprises, ça c'est un autre sujet.
Oui, ben, pour les entreprises justement, dans la mesure où l'on dit qu'il faut quand même faire tourner l'économie, c'est un minimum, ne fût-ce que parce que d'ailleurs il va falloir que les économies payent aussi, et les changements, et en attendant quand même les flux d'énergie nécessaires, qu'est-ce que ça signifie faire de la sobriété pour des entreprises?
Les leviers adoptés sont pour une partie les mêmes que ceux pour les consommateurs particuliers, avec en plus la climatisation, parce que en Belgique, l'essentiel de la climatisation est utilisé par des entreprises, notamment dans le secteur tertiaire, plus que chez les gens. Donc moins climatiser l'été, ça peut passer par des mesures réglementaires, alors déjà d'éducation des gens et des entreprises, des mesures réglementaires aussi pour limiter les consignes de climatisation et puis vérifier que ces consignes soient appliquées. Pareil pour le chauffage l'hiver. Et après, inciter les industriels à rénover leurs industries pour adopter des procédés qui soient plus efficaces. Donc ça peut nécessiter de les accompagner, de les aider financièrement pour économiser de l'énergie. Et en contrepartie, en fait, ça permettra aussi de faire dégonfler les prix de l'énergie et donc de davantage préserver la compétitivité industrielle des pays européens.
En termes de déplacements globaux, Maxence Cordier, est-ce que demain, l'avion va devenir un luxe préservé pour certaines expéditions et pas d'autres? Le bateau idem, le transport routier va devenir moins rentable qu'un transport fluvial. Qu'est-ce qui va changer?
L'avion est déjà un luxe, en fait. Seule une petite partie de la population a déjà pris l'avion et encore une partie encore plus petite prend régulièrement l'avion. Avec l'envol du prix du pétrole, effectivement, c'est quelque chose qui est, et de toute façon, avec nos politiques climatiques aussi, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus élitiste, entre guillemets. C'est aussi pour ça que si on veut préserver la capacité des gens à se déplacer, il faut d'ores et déjà penser à des alternatives, notamment pour ce qui est court et moyen courrier, développer des alternatives ferroviaires efficaces tout au travers de l'Europe, avec des trains à grande vitesse, des trains de nuit, etc., qui permettent aux gens de se déplacer. Après, décarboner la mobilité, que ce soit pour le climat ou pour se sevrer des combustibles fossiles, va demander des efforts. C'est-à-dire que ça ne va pas être simplement de la décarbonation des voitures via des véhicules électriques à batterie ou la décarbonation des avions avec des carburants aviation durable. Ça a un rôle à jouer pour décarboner une partie de cette mobilité. Même en 2050, il y aura encore des avions, en 2060, etc. Mais il y en aura beaucoup moins. Et en fait, ce qu'il faut, si on veut atteindre vraiment la neutralité carbone et se sevrer des combustibles fossiles, c'est réinterroger la place de ces modes de transport dans l'offre générale de transport et développer des mobilités alternatives, s'interroger sur le besoin de mobilité aussi, donc développer le tourisme plus local, le télétravail, etc., développer les mobilités alternatives, l'incitation à les utiliser, etc.
Dans la mesure où vous nous dites par exemple, oui, ben il faudrait changer, privilégier par exemple les trains de nuit, par exemple les trains à grande vitesse, mais pour ça il faut de l'électricité. Comme il en faut pour le parc automobile que l'on nous dit en Belgique, à partir de 2035, être exclusivement électrique.
Tout à fait, il faut de l'électricité. C'est pour ça que la politique actuelle belge qui consiste à dire à certains moments qui sont rares d'ailleurs dans l'année, il y a trop d'électricité bas carbone, donc il faut fermer des centrales nucléaires, n'est pas une politique pérenne. Un, il va falloir plus d'électricité, donc s'il y a trop d'électricité à certains moments, ça veut dire deux choses. C'est que, un, il faut flexibiliser le système électrique pour être capable de décaler certaines consommations pour profiter de cette électricité bas carbone quand elle est disponible. Et deux, accélérer l'électrification des transports, du chauffage via des pompes à chaleur, etc., pour pouvoir chasser des combustibles fossiles. Rappelons que l'enjeu premier de la transition énergétique, c'est de se sevrer des combustibles fossiles à la fois pour le climat et en anticipation de leur épuisement parce que nos modes de vie reposent encore largement sur les combustibles fossiles. Donc il est essentiel de réussir à s'en sevrer de façon volontaire et organisée avant que ce soit forcé par le marché, ce qui est d'ailleurs plus ou moins en train de se passer.
Oui, on a lu souvent que rien finalement de fondamental ne changerait parce que les lobbies sont trop forts. Et je vous ai lu par ailleurs à plusieurs reprises, et puis vous nous l'avez laissé entendre déjà, que les pays européens n'ont pas la ferme volonté de sortir des combustibles fossiles. Pas de volonté plus lobby égale on fait du surplace ?
Pour moi, le principal lobby sur ce sujet-là, ce sont pas les entreprises, mais plutôt les populations. Le pire lobby pour un politique, c'est son électorat. C'est l'électorat qui va le porter ou non au pouvoir. Et donc, c'est en premier à son électorat que le politique répond. Donc, si l'électorat est préoccupé par le climat, le politique en parlera beaucoup. Mais si, en parallèle, l'électorat ne comprend pas ce qu'est le changement climatique, n'en comprend pas les causes, et donc que l'électorat demande toujours plus de pouvoir d'achat, demande à n'avoir aucune contrainte sur la voiture, etc., c'est aussi ce que le politique va lui proposer. Donc on peut avoir des politiques qui parlent beaucoup de climat et qui en parallèle proposent des mesures qui vont complètement à l'encontre de ce qu'ils disent. Donc je pense que si on veut avancer sur le climat, il faut faire monter en compétence à la fois les politiques, mais surtout la population, pour que la population ne demande pas simplement aux politiques de parler de climat, mais demande aux politiques de défendre des mesures qui servent effectivement la décarbonation de nos sociétés et la lutte contre le changement climatique.
Oui, mais ça veut dire quoi ? Qu'il faut, pour parler cash, comme vous dites, ça veut dire qu'il faut faire mal, qu'il faut que la population ait mal pour qu'elle se rende compte et qu'elle se dise « bon ok, là il y a urgence ».
Alors idéalement, ce serait bien d'éviter d'en arriver là, parce que si on attend d'avoir mal, c'est-à-dire qu'après on est dans la réaction, alors que changer le fonctionnement de nos sociétés les énergies sur lesquelles on s'appuie va prendre du temps. Donc de toute façon, faire des politiques de long terme en réaction, c'est très compliqué et les résultats ne se font pas sentir tout de suite. Donc je pense surtout qu'il faut expliquer à la population ce qu'est le changement climatique, c'est-à-dire que c'est un problème de gaz à effet de serre, de CO2 et de méthane émis principalement par les combustibles fossiles, que les combustibles fossiles c'est le pétrole, le gaz et le charbon, que l'enjeu c'est de se sevrer de ça, qu'il n'y a pas qu'un enjeu climatique mais aussi un enjeu de préservation de nos modes de vie. L'enjeu de la transition, c'est pas d'embêter les gens, en fait c'est aussi de préserver le plus possible les services que nous rendent aujourd'hui les combustibles fossiles face à leur épuisement. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, si on équipe l'ensemble de la population avec des petits véhicules sobres qui consomment peu, alors ce sont des véhicules qui seront moins puissants, peut-être moins confortables, mais au moins, les ménages les plus modestes pourront continuer à se déplacer. Tandis que si on laisse un marché dérégulé où chacun peut acheter ce qu'il veut, ça veut dire qu'on laisse des gens acheter des véhicules qui consomment beaucoup, dont ils ne pourront, pour certains, plus faire le plein d'ici quelques années. Donc, préparer la sortie des combustibles fossiles, c'est aussi s'interroger sur les services, le cœur des services que nous rendent les combustibles fossiles pour pouvoir les préserver face à leur épuisement.
Certains font le pari de la science en disant, voilà, de toute façon, la motivation est telle, la capacité de nos cerveaux est telle que l'on va trouver des solutions scientifiques. Alors, beaucoup parient sur l'hydrogène, sur d'autres solutions. C'est quoi, c'est un leurre ?
Oui et non. Il y aura besoin de solutions scientifiques et techniques. Alors les sciences, déjà, c'est ce qui permet de comprendre le monde. La science ne prescrit rien. Elle permet de comprendre et à partir de cette compréhension, on peut faire nos choix. Il y aura besoin de nouvelles technologies pour décarboner parce qu'on ne va pas se passer des combustibles fossiles pour rien. Donc il y aura besoin de véhicules électriques, il y aura besoin d'hydrogène, il y aura besoin de carburants à aviation durable, etc. Par contre, il faut bien en voir les limites. Prenons le cas des carburants à aviation durable, c'est-à-dire faire des carburants, par exemple, à partir de l'usager, de résidus agricoles, etc. C'est quelque chose qu'on sait faire. Faire des carburants à partir de n'importe quelle matière carbonée, on sait faire. L'Allemagne le faisait pendant la Deuxième Guerre mondiale, faisait des carburants à partir de charbon. Ce ne sont pas des technologies nouvelles. Le problème, c'est que si on veut faire des carburants aviation durable, il faut un gisement de matière derrière qui soit durable. Donc, ça limite le gisement. Des huiles usagées, il n'y en a pas des quantités illimitées, des résidus agricoles non plus. Donc, ça veut dire que le gisement de carburant qu'on peut produire sera limité. Et le coût sera nécessairement supérieur au coût des carburants fossiles. Donc, si l'objectif, c'est de pouvoir continuer à transporter quelques diplomates de temps en temps à l'autre bout du monde, parce qu'on se dit que ça reste utile de discuter avec les pays éloignés, là, dans ce cas-là, c'est faisable, la décarbonation. Par contre, si le but, c'est de faire du Bruxelles-Barcelone à 15 euros et de faire croître ce trafic-là, on n'y arrivera pas, parce qu'il n'y aura pas suffisamment de carburants et parce qu'ils coûteront trop cher. Et ça, c'est valable pour toutes les énergies et technologies, pour la transition. C'est valable pour les énergies renouvelables, c'est valable pour le nucléaire, c'est valable pour les véhicules à batterie, c'est valable pour l'hydrogène, c'est valable pour les carburants aviation durable. En fait, tout ça, ce sont des éléments de solution, mais qui doivent impérativement être accompagnés d'une réflexion sur l'usage, parce qu'ils n'ont pas la capacité de remplacer l'entièreté des services rendus par les combustibles fossiles dans leur étendue actuelle.
Est-ce que la cause, si j'ose dire, l'effort à fournir, est desservie par un certain nombre de tenants d'une certaine écologie? Vous pointez notamment un certain nombre d'organismes comme Greenpeace.
Je pense que c'est un certain nombre d'ONG se fourvoient dans leurs objectifs, et je pense que ça vient en fait de leur structure, c'est-à-dire qu'une ONG ne sert pas l'environnement, mais la vision que ses membres ont de l'environnement. Et ça fait une différence importante. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui adhèrent à une ONG parce qu'ils sont préoccupés par l'environnement, mais qu'ils n'ont pas forcément envie qu'on leur dise que le problème vient d'eux et qu'ils vont devoir changer fondamentalement leur mode de vie, bah ces ONG leur proposent des réponses qui vont dans leur sens. C'est-à-dire on pointe des coupables, les grosses entreprises, les gouvernements, qui permet toujours d'avoir des coupables tiers, mais ça résout pas vraiment le problème. Le sujet, c'est vraiment un sujet de mode de vie et de réflexion démocratique qu'il faut avoir sur la compatibilité de nos modes de vie avec l'environnement. Et ça, c'est un sujet qui est beaucoup plus difficile. Par exemple, on parle très peu, quelles que soient les campagnes politiques, de sobriété, d'efforts que l'on pourrait faire pour moins consommer. Les débats portent toujours sur des sujets qui sont un peu clivants, sur le nucléaire, les renouvelables. Mais par exemple, on parle très peu de combustibles fossiles, on parle peu de mobilité, on parle peu de chauffage.
Le mot de la fin, s'il fallait en définir un, sobriété, c'est décroissance ou pas ?
Ça dépend ce qu'on veut dire, mais si on s'intéresse au PIB, oui, probablement. De toute façon, moins consommer d'énergie, ça veut dire moins produire de biens et de services, donc moins de biens et de services à monétiser, et donc moins de PIB à la fin. Après, en termes de niveau de vie, ça peut être assez différent. C'est-à-dire que ces politiques de décarbonation doivent aller avec une réflexion aussi, une réflexion sociale. L'essentiel de l'effort ne doit pas être porté par ceux qui ont le moins et qui, de toute façon, émettent le moins de gaz à effet de serre. Donc, il faut que l'effort soit réparti. Et après, il peut y avoir aussi une réflexion sur la répartition des richesses pour que cette situation n'affecte pas le moins possible les foyers qui ont le moins. Mais il n'y a pas de miracle. Actuellement, l'explosion du pouvoir d'achat dont on a été témoin ces dernières décennies, permises par l'abondance des combustibles fossiles, d'une certaine manière, va prendre fin aussi au fur et à mesure qu'on devra se sauver des combustibles fossiles. Mais c'est aussi pour ça qu'il est nécessaire de bien penser la décarbonation, parce que plus on la planifiera, plus on sera maître de ce qui se passera et plus on pourra garder ses services et un pouvoir d'achat important et bien réparti au sein de la population. Donc après, une stabilité politique, etc.
Merci Maxence Cordier. Énergie, fake or not, c'est chez Tana Édition. Merci d'être venu nous en donner les pistes de réflexion.
Merci beaucoup.